L'indifférence, c'est très difficile à bouger. Comme disait ma grand-mère, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Mais les ânes finissent toujours par avoir soif à un moment donné. Mais j'allais dire, il ne faudrait pas faire cette figure aussi rude d'une France déchristianisée. Oui, il y a des éléments contraires. C'est vrai qu'il y a aussi parfois des campagnes, j'allais dire, antichrétiennes ou de dérision. Mais il ne faut pas que l'arbre nous cache la forêt. Je pense qu'on n'a jamais connu de climat ou de moment aussi favorable pour une véritable rencontre. Pour une véritable rencontre. En sachant bien ici que le parvis des gentils n'est pas à confondre avec la nouvelle évangélisation. Ça ne correspond pas au travail, ou c'est différent du travail qui va être celui du nouveau conseil pour la promotion de la nouvelle évangélisation en Europe, de Monseigneur Fisichella. Ici, c'est vraiment un espace de rencontre entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et je trouve, surtout pour les Français qui sont épris de la liberté que c'est de pouvoir penser, j'allais dire, ensemble et de pouvoir échanger une parole libre, je trouve que intellectuellement, mais aussi spirituellement, c'est très bien posé, parce que ça n'est pas comme on aurait pu être tenté de le faire dans des dialogues à l'ancienne entre croyants et non-croyants. Alors toi, qu'est-ce que tu as de plus que moi? Tu es plus libre, tu es moins libre, etc. Une espèce de vis-à-vis ou de face-à-face qui fait qu'on prend la pause. Alors on est le non-croyant de service, on est le croyant de service, alors qu'en fait, celui qu'on appelle non-croyant, il pose bien sa confiance en ceci ou en cela pour vivre, et pour vivre ensemble avec d'autres, et pour imaginer un avenir qu'il ne maîtrise pas plus que personne. Et le croyant lui-même n'est pas croyant sans être traversé de questions assez fondamentales. Là, la position intellectuelle, elle est autre. Elle est de se mettre ensemble et de parler, et de regarder un monde qui nous arrive, qui est en mutation extrêmement rapide et qui est un monde d'une très grande complexité. Et en se parlant des défis de ce que cela nous pose, de se dire, à partir de mes convictions ou à partir de nos ressources intellectuelles, comment pouvons-nous faire face ensemble, et parlons-en ensemble, comment pouvons-nous faire face à ces défis? Vous voyez, on n'est pas enfermé dans une sorte de vis-à-vis, mais on affronte quelque chose qui est inconnu pour nous. Et le croyant pense que si on essaie de penser vrai, d'agir juste, Dieu n'est pas loin dans cette situation. Et en tout cas, de toute façon, il y a une espèce de solidarité à avoir qui est un témoignage pour tous, y compris pour celui qui est simplement un homme ou une femme de bonne volonté. Voilà.
Alors vous voulez, j'imagine, toucher le plus grand nombre. Est-ce que cette structure n'est pas un peu élitiste en faisant rencontrer des grands intellectuels et des grands penseurs dans des lieux du savoir qui sont un peu fermés généralement au grand public?
Alors il y aurait deux réponses, si pas trois, à faire à ça. C'est pas qu'on cherche à toucher le plus grand nombre. Je suis surpris de l'enthousiasme, enfin heureusement surpris de l'enthousiasme que la démarche suscite. Et je pense que c'est simplement, c'est pas le nombre pour avoir le nombre et puis après le feu de paille est fini. C'est parce que je pense que ça correspond à quelque chose d'assez profond et qui était attendu. Alors le nombre, il advient très bien. Mais c'est surtout la qualité de l'échange qui fera que ça aura un impact, et un impact durable. Alors la deuxième réponse qu'il faudrait faire, c'est que même ici, dans le moment inaugural, les activités sont très diverses. Il y a des activités centrales à l'UNESCO, en Sorbonne et à l'Académie ou à l'Institut, dont on pourra parler, et qui sont vraiment de très haut niveau et de très, très belle qualité intellectuelle. Mais il y a aussi des rencontres avec des étudiants, mais il y a aussi une fête des jeunes sur le parvis. Et ceci est à l'image d'autres, c'est ma troisième réponse, d'autres parvis des gentils qui vont avoir lieu un peu partout, parce que les gens l'ont demandé, que ce soit à Prague, à Québec, à Tirana, etc. Donc là, la troisième réponse, c'est, mais c'est très étonnant, c'est-à-dire ils n'auront lieu que des événements là où les gens le veulent. C'est-à-dire, cette structure n'est pas une espèce de structure pyramidale qui va coiffer, comme si il y a une structure au Conseil pontifical, il doit y en avoir dans chaque pays, il doit y en avoir dans chaque diocèse et jusque dans la dernière des communautés. Pas du tout ça, c'est pas du tout ça. C'est complètement transversal, ça apparaît là parce que quelqu'un le demande, une autre activité va être à un autre endroit et ainsi de suite, à la demande de ceux qui veulent le faire. Et donc ça vient vraiment, j'allais dire, au plus près du terrain.
Est-ce que vous donnez la même valeur à ce dialogue avec les non-croyants que vous le donnez à celui interreligieux ?
Il faut faire ceci sans oublier cela. Voilà, je pense que c'est pas hiérarchisé. Je pense que faire du tout religieux, ça serait pas plus profitable qu'on ne le faisait dans le temps, en disant ben, on est dans une société complètement sécularisée, il ne faut pas faire attention à la religion. La société dans laquelle nous sommes est simultanément, j'allais dire, pleine de religion, mais aussi de religiosité, mais aussi de plein de choses. Hein. Et il ne faut pas dire que les gens sont sans repères. Ils ont trop de repères. Il y a trop de choses autour. Ils ne maîtrisent plus tout ce qui leur arrive par les médias, par les moyens de communication. Donc on est dans un monde qui est, j'allais dire, saturé de choses religieuses dans tous les sens. Et donc c'est le discernement qui est important. Puis on est dans un monde où, en même temps, il y a une large autonomie, non seulement des personnes, mais des moyens qui fabriquent la société et qui sont rationalisés, la technologie, la médecine, les échanges commerciaux, l'économie, etc. Donc on est dans un monde à la fois religieux et séculier. J'allais dire, c'est pas une situation plus compliquée que ça ne l'était pour la génération apostolique. Les apôtres arrivant à Rome étaient dans un monde saturé de religion dans tous les sens. Et ils étaient dans un monde aussi assez désenchanté, assez sceptique, avec des philosophies en même temps assez pures et un essai de rationalité. Ils connaissaient aussi ce monde-là. J'allais dire, c'est ni plus compliqué ni plus difficile. Nous sommes tout simplement invités à être vrais. Parce que nous portons tout cet héritage, les communautés chrétiennes, en Europe du moins, portent en elles-mêmes tout cet héritage.
Quel fruit attendez-vous de ce Parvis des Gentils ?
Je travaille pour, comme théologien sur le dialogue interreligieux et sur la théologie des religions non chrétiennes. Alors ça me fait beaucoup voyager. Et je suis très très frappé de la sinistrose française aggravée. C'est-à-dire les petits Français, nous tous là, nous sommes un peu râleurs, mais ça, bon, ça fait partie du charme, enfin ça dépend pour qui, les étrangers n'apprécient pas trop, mais surtout nous sommes un peu tristes ces temps-ci, tout le monde est morose, tout le monde est désenchanté. Là, moi, ce que j'en attends, c'est une espèce de respiration, une autre saisie de ce que l'évangile peut apporter en effet, en impact sur une société qui cherche sa voie. Quelque chose qui fait respirer, qui donne de la joie, qui donne une liberté. La liberté que ça donne de suivre le Christ, d'essayer de suivre le Christ, si c'est ça, croire. Donc j'attends beaucoup de ça, cette libération de la sinistrose et une espèce de confiance paisible qui n'abolit pas le tragique, mais qui permet de prendre l'évolution de la société d'aujourd'hui d'une autre manière que peut-être nous sommes accoutumés de la prendre.
Dialogue avec les non-croyants, vous entendez par là non-croyants simplement athées ou non-croyants chrétiens, et vous vous adresserez aussi aux musulmans et aux juifs ?
La qualification de non-croyant n'est pas bonne, pour deux raisons. La première, parce que c'est une détermination négative. Je ne me définis pas comme non-musulman ou non-bouddhiste, je suis chrétien. Donc je ne me définis pas en niant que je suis autre chose. Donc de toute façon, si croire c'est un acte qui est un acte sourd, c'est pas un acte produit, c'est ça la difficulté, c'est que dans le langage contemporain, croire c'est pas savoir très bien. On a une espèce de dérive qui vient des Lumières, et d'une, j'allais dire, de l'idéal d'une science positive, objective, vérifiée, etc. Alors, il y a une dévaluation du croire. Croire, c'est pas savoir très bien, mais c'est pas ça du tout. Croire, c'est un acte source. Il faut réévaluer l'acte de croire. C'est un acte de confiance et d'anticipation de l'avenir. Donc, il y a un rapport à l'autre, et au bout c'est la charité, et un rapport à l'avenir, au bout c'est l'espérance. Croire, espérer, aimer, ça tient ensemble. La confiance a quelque chose à voir, et donc la foi comme découverte de Dieu, confiance en Dieu, ça a quelque chose à voir avec le rapport à autrui et avec le rapport à l'avenir. Et le petit homme, lui-même, l'animal, il a tout ce qu'il faut dans l'instinct pour survivre. Le petit homme, s'il n'y a pas un autre qui s'occupe et un autre qui l'aide à se diriger vers l'avenir, il ne pourra pas vivre. Et cette loi qui vaut pour le bébé, elle vaut pour toute la vie. Dis-moi comment tu te comportes par rapport à autrui et par rapport à l'avenir, et je te dirai en quoi tu as confiance. Tu as confiance dans l'autre, tu as confiance dans le fric, tu as confiance dans ton ethnie, tu as confiance en quoi? Est-ce que tu as confiance aussi dans cet autre majuscule, A majuscule, inconnu, que tu cherches, mais que le croyant a appris à reconnaître? La foi est une reconnaissance du visage de cet autre. Donc vous voyez, première des choses, non-croyant, c'est pas une bonne définition. Alors après, s'adresser aux musulmans, aux juifs, là c'est un autre type de dialogue dans lequel on rentre, et qui est tout à fait passionnant. Moi, c'est mon travail, hein, comme théologien en ce moment. Mais là, chacun de ces croyants a sa tradition spirituelle, a ses textes sources, a une configuration, j'allais dire, de la vie spirituelle et de l'éthique aussi, qui lui est propre. Donc ça, c'est un dialogue spécifique. Ici, c'est simplement un dialogue ouvert entre ceux qui se préoccupent du monde et du monde à venir et des autres. Sans ça, il ne se passera rien du tout. Et qui veulent se dire au nom de quoi, en s'appuyant sur quoi, on va pouvoir bâtir un monde neuf, un monde différent.
Un nouvel humanisme ?
Oui, si, oui, tout à fait. Mais faut faire attention toujours avec ce mot de humain, il a une double valence ou valeur. Il y a l'humain trop humain. Mon premier maître spirituel, il disait, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est-à-dire, il y a toujours cette pesanteur, bon voilà, c'est humain, on n'y arrive pas. Bon. Et puis, il y a l'humain surhumain. Un peu comme Nietzsche disait, l'humain doit être dépassé sans cesse. Donc il y a l'humain où il faut devenir plus humain en étant plus grand en humanité. Donc un nouvel humanisme, alors si c'est une espèce d'humanisme plat, confortable, avec le mollet rouillé du doute, où on ne sait pas trop, hein, donc vivons une vie moyenne, et puis c'est ça l'humain, non, ça c'est une mauvaise harmonie, on va s'endormir là, on va s'ennuyer, c'est pas l'humain qui est toujours plus grand que nos cœurs. Mais si c'est un humanisme qui va avec rigueur, jusqu'au bout, enfin qui prend au sérieux jusqu'au bout les exigences de ce que c'est que de devenir humain. Alors là, oui, certainement. Pour nous, évidemment, comme chrétiens qui croyons au Dieu fait homme, au Dieu qui s'est fait humain pour que nous partagions sa vie, on sait qu'il y a dans l'humain plus que l'humain. Mais après, il faut le mettre en œuvre pour en témoigner.